Chers amis auditeurs fidèles d'Opéra Agora, bonsoir. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à nouveau à continuer notre voyage musical au travers des siècles et des plus belles pages d'opéra. Nous avons entamé cette année un cycle opéra français à la gloire de nos grands maîtres du XIXe siècle. Nous en étions arrivés à Charles Gounod, que nous évoquons à nouveau avec Mireille, son opéra qui fleure bon la Provence, inspiré de l'œuvre magistrale de Frédéric Mistral. C'est une œuvre complètement à part dans la production de Gounod et qui est malheureusement peu jouée, à cause, certainement, de son caractère folklorique régional. Dommage, car musicalement, c'est un chef-d'œuvre comparable aux autres opéras de Gounod. Ma chère Nancy est à son poste de réalisatrice, et pour nous mettre dans l'ambiance, voici un petit best-of de cet opéra qui va rapidement nous installer dans la Provence de Charles Gounod. Écoutons l'opéra d'Avignon. Reconnu entre autres la célèbre farandole, souvent interprétée lors des manifestations provençales. Comme vous le voyez, le folklore de la région d'Arles et Tarascon a bien inspiré notre Gounod national. Et pour bien comprendre le caractère de cette langue d'oc, cher à Mistral, j'ai invité ce soir un spécialiste du genre, écrivain et musicologue, mon ami Robert Rouret, qui va nous éclairer sur ce sujet et que vous pourrez par autre apprécier en lisant ses livres sur le monde des troubadours ou bien sur l'historique de l'Opéra de Nice. Enfin, connaisseur de l'art méditerranéen qu'il est. L'histoire de Mireille est toute simple, et nous retrouvons son intrigue dans beaucoup d'œuvres lyriques. Mireille aime Vincent, le pauvre vanier. Ramon, le père de Mireille, veut la marier à Urias, le riche bouvier. Urias provoquera Vincent et le laissera pour mort. Mireille, inconsolable, ira prier au Sainte Marie de la Mer et sera victime du soleil en traversant la Croix. Avant que de donner la parole à Robert Rouret, écoutons maintenant la chanson de Magali, duo entre Mireille et Vincent. Écoutons André Esposito et Alain Vanzo, mes chers amis, grand artiste lyrique. Chanson de Magali.
Brisé douce et parfumée, l'oiseau s'endort sous la ramée, au fond du bois silencieux, au fond du bois silencieux. La nuit sur nous étend ses voiles et dans les cieux je vois une amoureuse étoile lui rend mes yeux.
Oh Magali, ma bien-aimée, fuyant tout de sous la au fond du bois silencieux, au fond du bois silencieux, la nuit sur nous étend ses voiles et tes beaux yeux vont faire pâlir les étoiles au sein des cieux.
une jolie page, nous révélant une fois encore le talent de Gounod pour écrire la mélodie. Il est temps maintenant d'écouter notre expert nous parler de cet art provençal et du grand poète méridional Mistral. Écoutons Robert Rouret.
Alors, la parution de Mireille en 1859 a été un événement littéraire dont on mesure mal aujourd'hui la portée. Ce ne fut pas seulement un événement régional, comme on pourrait le croire, mais un événement national, l'ouvrage étant salué à Paris, en particulier par Lamartine. Dans son cours familier de littérature, Lamartine est enthousiaste. « Je vais vous conter une bonne nouvelle », écrit-il. « Un grand poète épique est né. La nature occidentale n'en fait plus. La nature méridionale en fait encore. Il y a une vertu dans le soleil », ajoute-t-il. Lamartine parle aussi d'un poète né d'un caillou de la Croix, d'un poète primitif dans notre âge de décadence, d'un poète grec à Avignon. Il le présente aussi comme un poète qui crée une langue nouvelle, de la même façon que Pétrarque a créé l'italien. On préfère aujourd'hui citer Dante comme fondateur de l'italien. Il le présente comme un poète qui, d'un patois vulgaire, a fait une langue classique, ravissant l'imagination et l'oreille. Comme un poète qui joue sur la guimbarde de son village des symphonies de Mozart et de Beethoven. Comme un poète de 25 ans qui, du premier jet, laisse couler à flot pur et mélodieux une épopée agreste où les scènes de l'Odyssée, mêlées aux saintetés du christianisme, sont chantées avec la majestueuse simplicité de l'aveugle de Quiot. Il s'agit évidemment là d'Homère. Lamartine, qui n'est pas romantique pour rien, parle de miracle. Il commet toutefois quelques erreurs. Mistral n'a pas 25 ans, mais 30. Il n'est pas le créateur d'une langue nouvelle, mais le continuateur d'une langue qui a ses lettres de noblesse depuis le Moyen-Âge et qui, au fil du temps, a porté des noms différents. Limousin, au temps glorieux des premiers troubadours, tels Guillaume d'Aquitaine ou Bernard de Ventadour. Languedoc, occitan, occitanien, provençal. Ce fut même, on l'oublie trop, la première langue poétique en langue vulgaire issue du latin. Cette langue, à l'origine de l'amour courtois, devait inspirer les trouvères du nord de la France, les poètes italiens du dolce stile nuovo, Dante, lui-même, dans sa Divine Comédie, les Minnesänger germaniques comme Walter von der Vogelweide. Cette langue n'avait plus droit de citer en France depuis l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, sous le règne de François Ier. Cet édit imposait l'usage exclusif du français dans les langues, dans les actes officiels. Et cela avait contribué à en faire peu à peu un patois, parlé seulement par les couches populaires. Telle était la situation au temps de Mistral. Dans son travail de réhabilitation de la langue, Mistral s'est fondé essentiellement sur le parler de son village natal, Mayanne, non loin d'Arles, où l'on parlait alors, peut-on dire où l'on parle encore, le dialecte rhodanien, qui est sans doute la forme la plus évoluée du provençal, au sens où les consonnes finales ne sont généralement pas prononcées, contrairement au parler plus conservateur de la montagne, tel le gavot. Par sa douce musicalité, le rhodanien ressemblerait ainsi plus à l'italien qu'à l'espagnol, auquel s'apparenterait le languedocien ou le gascon. C'est donc dans cette langue que Mistral a composé Mireille, dont je vous lis la première strophe, « Cante une chatte de Provence, din les amours de sa juvence, à travers de la crau et la mar din les blas, humble esculant du grand humero, io la vole segui. Cumero rien qu'une chatte de la terre, un fort de la crau, se ne sgaire par là. Je chante une jeune fille de Provence dans les amours de sa jeunesse, à travers la croix, vers la mer, dans les blés, humble écolier du grand Homère, je veux la suivre. Comme ce n'était qu'une fille de la terre, en dehors de la croix, on n'en a guère parlé. » Le combat de Mistral et de ses amis, les Félibres, s'inscrit à ce moment-là dans le mouvement des nationalités qui marque tout le XIXe siècle. Un peu partout en Europe, mais particulièrement en Europe centrale, une multitude de peuples qui n'ont pu se constituer en nationalité luttent pour leur reconnaissance, parfois leur indépendance. La liste est longue, tchèques, slovaques, roumains, bulgares, slovènes, croates, serbes, etc. Cette lutte s'accompagne de recherches sur les traditions, le folklore, ce qui donnera naissance à de nouvelles écoles littéraires ou musicales. Sans avoir fait de leur combat une véritable revendication politique, Mistral et les Faits Libres souhaiteraient malgré tout pour le Midi de la France une forme d'autonomie. Ils se réclamaient du fédéralisme. Forme d'autonomie qui permettrait peut-être de sauver une langue qu'ils sentaient très menacée. Ils s'associent alors dans cette lutte aux Catalans, dont la situation est comparable dans le cadre de l'État espagnol où seul le castillan était reconnu. Cela explique les premiers mots de la Coupo Santo, sorte d'hymne national provençal, Provençao veici la Coupo que nous vendi catalan, aderen beguen en troupe, l'ouvim pur dei nostre plan. Dans ce combat, il faut bien admettre que les Catalans ont été plus efficaces que les Provençaux, puisqu'ils sont allés, ils sont même allés ces dernières années jusqu'à proclamer leur indépendance, sans succès il est vrai, et que le catalan, en tout cas, est langue officielle de la Catalogne au même titre que le castillan. Mistral a vite compris qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer de l'État français sur le plan politique. Il se résignera très vite pour se consacrer essentiellement à son œuvre littéraire et à la recherche lexicographique. En 1866, 7 ans après Mireille, il publie « Calendal », qui est un poème sur le passé de la Provence maritime et montagnarde, où le pays grassois, qui est cité, est comparé à un val d'amour, un encensoir, une terre promise, où les femmes à pleine corbeille cueillent jasmin, tubéreuse, rose, ce qui donne en provençal « Vau d'amour, Palestine, incensié, Montelifène à Canestel, Meissun un jausemin, tuberose et rougier ». Une bonne partie de l'action de Calendal se situe dans l'arrière-pays grassois, dans la vallée de l'Estéron, plus précisément à Aiglun, où Mistral a placé le château du comte Séverin, qui retient Estérel prisonnière et que Calendal se propose de délivrer. On a vu dans ce poème épique une allégorie de la Provence emprisonnée par le centralisme français. En 1878, donc 12 ans plus tard, il publie le Trésor du Félibrige, qui est un énorme dictionnaire provençal français où il s'efforce de rassembler toutes les variantes de la langue d'oc. Le poème du Rhône, publié en 1897, retracera la fin de la batellerie sur le Rhône, tuée par la concurrence du chemin de fer. C'est son dernier chef-d'œuvre. Mistral semble s'y résigner à la mort prochaine de la langue. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1904. Il a alors 74 ans. Il bénéficie ainsi d'une reconnaissance internationale. Quelque temps plus tard, le président de la République française d'alors, dont j'ai oublié le nom, ira jusqu'à faire arrêter le train présidentiel en gare de Mayenne pour pouvoir saluer Mistral. Mais cela ne changera rien au fonctionnement de l'école publique de Mayenne, où l'on continuera de réprimander, parfois de punir, les malheureux écoliers laissant échapper quelques mots de provençal. L'école de la Troisième République restera sur ce point intransigeante. Il s'agissait en effet de préparer les futurs combattants de la guerre à venir contre l'Allemagne, afin qu'ils comprennent bien les ordres de leurs officiers, le but étant de reconquérir l'Alsace et le nord de la Lorraine de parler germanique, auquel, horreur suprême, on avait imposé depuis 1871 l'usage exclusif de l'allemand. Mistral ne verra pas la Première Guerre mondiale. Il meurt quelques mois avant son déclenchement. Cette Première Guerre mondiale permettra à nombre de peuples européens d'accéder à l'indépendance, tels les Tchèques et les Slovaques, réunis dans la Tchécoslovaquie, tels les Slovènes, les Croates, associés aux Serbes dans le cadre de la Yougoslavie. En France, l'Union sacrée proclamée pendant le conflit ne laissera aucune place à la revendication régionaliste. Le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, si souvent invoqué, n'étant justifié qu'hors des frontières du pays. La victoire de 1918 permettra toutefois à l'Alsace-Lorraine de redevenir française, où on imposera, comme il se doit, l'usage exclusif de la langue française.
Agora Côte d'Azur.
Merci mon cher Robert pour ton éclairage. Je ne savais pas à quel point donc Lamartine était intervenue dans la carrière de Mistral. Écoutons maintenant le grand air du premier acte, le moment où Mireille refuse d'épouser Ourias, le riche bouvier, et elle clame son amour pour Vincent. Écoutons la belle Ivane Moulat. Trahir Vincent. Un magnifique air de premier acte.
Thank you.
n'est-ce pas ? Que sert admirablement Ivan Moula, avec son timbre de soprano lyrique si émouvant. Mais hélas, Ramon, le père de Mireille, ne l'entend pas de cette oreille. Vincent est misérable et ne saurait rentrer dans la famille. Il faut absolument que Mireille épouse Urias, le riche bouvier. C'est un homme rude, violent, que cet Urias, éleveur des taureaux de Camargue. Gounod en fait un portrait musical édifiant. Musique volontairement simpliste qui convient au personnage. Du rythme, de l'emphase populaire. C'est un rôle pour baryton que les plus grands ont abordé. Écoutons José Vandamme nous faire l'autoportrait de ce personnage qui n'est pas sans rappeler le toréador de Bizet.
Si les filles d'Arles sont reines, et vous fiez aussi le droit, oh la la la, fais son roi, il a pas, il son roi, il son roi. Et s'ils veulent prendre femme, la plus fière au fond de l'âme, se soumet par un choix. Par un choix, préfier à son tour de son doux servage, mais quittant pour toi son désert sauvage, devant tout sauver, pour y aspecter, se courba des pieds pour gagner.
D'Arles sont reines. Voilà ce que chante Urias. Eh bien, les bouviers aussi sont rois. Présomptueux, n'est-ce pas ? Nous voyons comment Gounod adapte à merveille le style de composition selon les personnages, depuis le raffinement lumineux de l'air de Mireille jusqu'à ce portrait un peu gros sabot de ce Bouvier de Camargue infatué. L'intrigue devient tendue. Urias défie Vincent. Le combat a lieu et Vincent est laissé pour mort. À ce moment du drame, l'inspiration musicale de Gounod change radicalement. Urias croit que Vincent est mort et il invoque les forces occultes. C'est peut-être le plus beau moment musical. Et Gounod se tourne maintenant vers une musique style fantastique fin du XIXe siècle, avec apparition des fantômes et autres ombres maléfiques. Il est minuit, c'est l'heure où l'on sort des tombes pour envoûter les vivants. Mais Vincent n'est pas mort. Mireille, qui a appris le déroulé du combat et son issue, s'est mise en route vers les Saintes Maries de la mer pour prier et espérer la survie de Vincent, très gravement blessé. Vincent, lui, qui connaît bien le pays provençal, sait que Mireille devra affronter la plaine de la Croix et son terrible soleil du mois d'août. À son tour, il prie pour Mireille, et c'est, ma foi, un très joli air pour ténor que compose Gounod à cette occasion. Écoutons cette jolie prière. Ange du paradis, couvrez-la de votre aile. Écoutons Roberto Alagna, Ange du paradis.
Mon cœur est plein d'un noir souci qui l'arrête. Pourquoi n'est-elle pas ici?
Ange du paradis, couvrez-la de votre
Vous voyez, encore là, une musique assez simple. N'oublions pas que Vincent, lui aussi, est un homme de la terre, n'est-ce pas ? C'est pas quelqu'un de très raffiné non plus, sans être comme l'infatué Urias. Il demeure un homme simple de cette Provence. Et cet ange du paradis est un joli air tout à fait inscrit pour un jeune homme, un vanier, sans prétention. La jolie voix de Roberto Alagna, qui campe un très convaincant Vincent, nous met en valeur cette belle mélodie. Le moment est venu de redonner la parole à notre expert en langue d'oc, mon ami Robert Rouret, plus précisément maintenant sur les inspirations diverses, folkloriques, musicales que l'on trouve dans les opéras à partir de ce Mireille qui nous intéresse et en allant sous d'autres cieux, bien entendu. Mon cher Robert, nous vous écoutons.
Agora Côte d'Azur.
Alors on a souvent dit que Gounod, peu après le milieu du XIXe siècle, avait rendu à la musique de théâtre française une partie de la dignité qu'elle avait perdue depuis 100 ans, lui redonnant une simplicité, de la simplicité du naturel, de la sincérité, sachant notamment traduire avec pureté et grâce les élans amoureux. On pense évidemment là au grand duo d'amour de Faust ou de Roméo et Juliette. Il faut dire que depuis près d'un siècle, la scène lyrique française était sous influence étrangère. Dans les dernières décennies du XVIIIe, Paris, puisque c'est là que tout se passe en France, ou presque, était le lieu de querelles artistiques parfois violentes, comme la querelle des Bouffons, qui est assez connue. Et ces querelles opposaient généralement les italianisants et les germanophiles. C'était le cas de la querelle, par exemple, entre les piccinistes, les partisans de Piccini, qui n'a rien à voir avec Puccini, et les gluckistes, partisans de Gluck. Pendant la première moitié du XIXe siècle, les choses ne changent guère. Napoléon le premier n'a jamais caché sa préférence pour la musique italienne. Rossini, Donizetti, Bellini, pendant plusieurs décennies, feront les beaux jours du théâtre italien où se précipitent les amateurs de Beauchamp, auxquels on reproche parfois un goût immodéré pour la pure virtuosité vocale. À l'Opéra de Paris, qui est fréquenté par la nouvelle bourgeoisie triomphante, on préfère le grand opéra historique, avec défilé, mise en scène grandiose, ballet obligatoire, dont le grand prêtre était Jacob Meyerbeer, juif allemand qui avait d'abord tenté sa chance en Italie, où il était devenu Giacomo, c'était son nouveau prénom, et dont le chef-d'œuvre, Les Huguenots, créé en 1836, ont connu un immense succès. L'année précédente, l'un de ses coreligionnaires, à Lévis, avait fait créer sur la même scène de l'opéra La Juive, autre grand succès d'un genre auquel certains reprochaient une certaine grandiloquence. Seule la troisième scène lyrique française, l'opéra comique, semblait encore s'inscrire dans une certaine tradition française, laquelle serait faite à ce qu'on dit de mesure, de clarté, de discrétion, de légèreté. À l'opéra comique, on donnait des ouvrages légers, associant le parler et le chanter, comme le postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam, créé en 1836, la même année que les Huguenots. Si l'on ajoute à cela que le théâtre italien de Paris avait vu en 1835, la même année que la Juive, la création des Puritains de Bellini, chef-d'œuvre absolu du bel canto dit romantique, on a une idée de l'importance considérable de Paris dans le domaine lyrique, où les Français toutefois ne jouaient que les seconds rôles. Le renouveau viendra d'une quatrième scène, ouverte peu après 1850, dirigée à partir de 1856 par un certain Léon Carvalho, le théâtre lyrique. C'est là d'ailleurs que Gounod fera créer ses trois chefs-d'œuvre, Faust en 1859, Mireille en 1864, Roméo et Juliette en 1867. On a pu dire et écrire qu'il y avait retrouvé le secret d'une certaine prosodie chantée française quelque peu oubliée. Si Faust, opéra comique à l'origine, qui se veut d'inspiration germanique, est devenu au fil des années et de ses transformations successives une sorte de grand opéra qui lui permettra d'être joué 10 ans après sa création sur la scène de l'opéra. Si Roméo et Juliette est encore d'inspiration italianisante, Mireille, par sa nouvelle couleur locale, peut apparaître comme l'œuvre prémonitoire de ce que sera la nouvelle musique française. C'est en effet paradoxalement, par la recherche de couleurs et de rythmes extérieurs à ce qu'on appelle la tradition française, que se fera cette renaissance. Un peu à l'image de ce qui se passait dans la peinture française de la même époque, Édouard Manet, par exemple, rompant avec le classicisme, allant chercher ses sources d'inspiration, ses thèmes, ses couleurs, dans la peinture espagnole, notamment chez Velázquez et Goya. Ce qui donnera des œuvres, par exemple, comme « Le déjeuner sur l'herbe » en 1863, qui provoquera un immense scandale, par ses personnages à l'emporte-pièce, par ses contrastes exagérés, par sa négligence absolue des demi-teintes et du modelé. Mireille, en 1864, n'a pas provoqué le même scandale. La couleur locale, relativement discrète, est fournie par la Provence, qui apparaît aux Français du temps comme une terre exotique, souvent comparée à l'Italie. Stendhal, quelques années auparavant, avait déjà fait cette comparaison. Gounod fera de même lorsqu'il s'installe à Saint-Rémy pour y préparer son opéra. La Provence, où la majorité de la population ne parle pas le français, est à la mode en ces années 1860. En 1866, les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet connaissent un immense succès à Paris. Bizet, qui est un ami de Gounod et qui a 20 ans de moins que lui, est revenu lui aussi émerveillé d'un séjour en Provence. Bizet semble d'ailleurs avoir été associé à la préparation de Mireille. On sait par exemple que Gounod a fait jouer son opéra chez lui avec Bizet au piano. Georges Bizet a aussi beaucoup apprécié le deuxième poème épique de Mistral, Calendal, dont nous avons parlé tout à l'heure, publié en 1866, la même année que les Lettres de Montmoulin. Il aurait même envisagé de le mettre en musique, d'autant que Paul Ferrier, qui était un spécialiste du genre, en avait fait rapidement un livret d'opéra, où il incluait quelques danses provençales telles la bouleguette, la fougnarelle ou la martégale. Mais la guerre de 1870 l'empêchera de se mettre au travail, tout simplement parce qu'il sera appelé sous les drapeaux de la garde nationale et ne composera pratiquement plus rien pendant une année. D'autres raisons, toutefois, semblent l'avoir incité à renoncer. Peut-être redoutait-il d'être confronté à Gounod, pour lequel il avait une grande admiration. Il y a peut-être aussi le fait qu'il s'agit d'un poème d'une nature différente de Mireille. Alors que Mireille se passe dans la campagne provençale du XIXe siècle, Calendal se déroule dans une Provence plus lointaine, en partie montagnarde, en des temps plus héroïques. Jongleurs et chevaliers s'y seraient substitués aux paysans. Si Bizet renonce à Calendal, il n'abandonne pas pour autant le filon provençal puisqu'il compose par la suite la musique de scène de l'Arlésienne, pièce de théâtre d'Alphonse Daudet, créée en 1872, d'après une nouvelle des Lettres de Montmoulin. Si la pièce est un échec, la musique de Bizet, par contre, a été très appréciée et elle sera donc adaptée par la suite, dans une suite précisément, pour orchestre, jouée indépendamment de la pièce. L'Arlésienne est sans doute beaucoup plus imprégnée de Provence que Mireille, où Gounod n'avait utilisé qu'une seule mélodie populaire. Dans l'Arlésienne, on entend en particulier la célèbre « Marche des rois », un vieux chant de Noël qui remonte au XVIIe siècle. À ce moment-là, on pouvait penser que Bizet allait persévérer dans cette voie provençale. Ce ne sera pourtant pas le cas, puisque 3 ans plus tard, en 1875, il donnera « Carmen ». En matière d'exotisme, il avait apparemment trouvé mieux. N'oublions pas non plus qu'en 1863, soit un an avant Mireille, Bizet avait tenté d'ouvrir une nouvelle voie vers l'exotisme en musique avec les Pêcheurs de perles, dont l'action se passe à Ceylan. C'est une partition qui est vaguement teintée d'orientalisme, l'orientalisme qui tentera par la suite beaucoup d'autres musiciens français, tel Saint-Saëns, par exemple, avec Samson et Dalila. 20 ans exactement après Les Pêcheurs de Perles, Léo Delibes fera créer à l'opéra comique L'Acmé, dont l'action se passe également aux Andes. Est-il nécessaire de s'attarder sur Carmen ? C'est un célébrissime opéra que tout le monde a vu. On sait par exemple que Nietzsche en a fait le symbole d'une nouvelle musique du Sud, l'opposant au wagnérisme triomphant. Ce que l'on ignore généralement, c'est qu'un mois avant, Carmen avait été donnée à Paris la symphonie espagnole pour violon et orchestre, symphonie qui est imprégnée de rythmes ibériques, de habanera en particulier, que Lalo avait écrite pour le grand violoniste espagnol Pablo de Sarasate. C'est la première d'une longue série d'œuvres françaises dont l'Espagne constitue le levant plus ou moins imaginaire. Car Lalo, pas plus que Bizet, n'était allé en Espagne. Chabrier, lui, ira en 1882. Il en revient enthousiaste, composant dans la foulée « Espagna », courte pièce pour orchestre d'un éclat irrésistible, où l'on retrouve des thèmes de danse tels ceux de la rota aragonaise ou de la malagueña. Après 1900, la musique française continuera d'exploiter la veine espagnole. En 1908, par exemple, Ravel, par ailleurs auteur de l'heure espagnole, du fameux boléro, de la pavane pour une infante défunte, fait jouer sa rhapsodie espagnole, une œuvre vibrante, ardente, au contraste rythmique très marqué, dont 3 mouvements s'intitulent Malagueña, Habanera, Feria. La même année 1908, Debussy, qui n'a jamais mis les pieds en Espagne, il ne connaissait en fait que Saint-Sébastien, donne Iberia, image pour orchestre. Il s'y abstrait de tout folklorisme. Ce n'était pas une espagnolade comme la France, toujours en quête d'exotisme, en a beaucoup produit. Songeons par exemple aux opérettes de Francis Lopez après la Seconde Guerre mondiale. Dans Iberia, de Debussy, donc, l'influence du folklore ibérique serait due à quelques allusions, à quelques sonorités systématiquement étouffées. Mais le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est l'influence que les musiciens français vont exercer en retour sur les musiciens espagnols, tels Isaac Albéniz, composant à la même époque des pièces pour piano, intitulées également Iberia, publiées, ce qui est significatif, à Paris, où résidaient d'ailleurs la plupart des grands musiciens espagnols et où viendra s'installer à la même époque Picasso. Tout cela montre l'importance de Paris comme place culturelle à ce moment-là. Iberia, dans les pièces pour piano d'Ibáñez, d'Albéniz, Iberia, on retrouve l'influence de Debussy. Manuel de Falla, fortement influencé par Debussy, lui aussi, ne manquera pas de souligner que le musicien français, sans connaître l'Espagne, à utiliser les arpèges, les figures rythmiques qui naissent sous les doigts des guitaristes andalous et que les compositeurs espagnols classiques avaient méprisé jusque-là. Les musiciens français auraient ainsi permis aux Espagnols de reconsidérer une partie de leur folklore. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter que la plupart des grands chanteurs d'opéra espagnols, tels Teresa Berganza, qui a été une mémorable Carmen, Placido Domingo ou José Carreras, qui ont été de remarquables Don José. La plupart de ces grands chanteurs ont dit avoir retrouvé une partie de leur identité dans cet opéra composé par un Français qui n'était jamais allé dans leur pays. Peut-on dire la même chose de Mireille ? Ce n'est pas certain. Beaucoup de Provençaux lui reprochent une certaine fadeur. En tout cas, il est certain que Mireille n'a pas eu la même importance que Carmen dans l'histoire de la musique et de l'opéra.
Merci mon cher Robert de tes éclairages si subtils sur la musique française. Retournons à Mireille et à la fin de l'opéra. La malheureuse traverse la Croix en plein mois d'août, c'est l'insolation implacable. Le délire et la mort. Gounod se surpasse en écrivant un grand air pour soprano, point final de cette ambiance provençale qui avait tellement envoûté Charles le Parisien. Écoutons pour terminer notre émission cet air, un air de bravoure, un air d'hallucination. En marche, en marche. Sur cette belle page, Nancy Zottier, Robert Rouret et moi-même vous saluons en espérant vous retrouver le mois prochain. Bonsoir. Écoutons Montserrat Caballé. En marche, en marche.